Bonjour à vous toutes et tous, amis de longue date ou bien simplement de passage sur Radio Grand Ciel. Et bienvenue à vous. L'Or des Curieux est une émission écrite et présentée par Robert Giroux. La prise de son en est assurée par Simon Martin. Nous finissons la saison par un détour chez le libraire, en l'occurrence la librairie du coin à Châteaudun. Beaucoup d'ouvrages de très grande valeur autour du thème de la musique cette année. Et j'ai voulu pour aujourd'hui distinguer « Chansons sur toi et nous » paru aux éditions Équateur et qui est l'œuvre de Françoise Hardy. Somme de tous ses textes de chansons, depuis ses tout premiers essais jusqu'aujourd'hui. Lecture spécifique donc le texte de chanson avec son cadre, ses lois, son utilisation du rythme et des sonorités, en fait un cas à part. Il n'y a aucun doute quant à savoir si la chanson est un art. En cas de doute, vous vous reporterez à Rimbaud de Vaqueras, à Bernard Ventadour, à Charles d'Orléans, à la Comtesse de Die, à Geoffrey Rudel, à François Villon, à Georges Brassens qui vous éclaireront sur le sujet. Françoise Hardy est quelque part dans cet arbre généalogique. Amour de loin, chant douloureux et beau, dont elle est tout autant une plume, une voix, une musique, d'abord lointaine et puis...
Clair, obscur, je n'aime rien tant que la fêlure qui les a tout le mur de sa résistance. Sombre et pâle, fragile et pur comme un cristal, transparent, idéal. Trop loin, passager clandestin d'un rêve incertain. Je sais qu'il ne va pas vraiment bien. Je n'attends rien. Je lui tends juste. À double tour pour pas souffrir, pour pas pleurer, car il croit que l'amour peut tuer. Clair, obscur, que la blessure protégée par le mur de ses apparences. Sombre et pâle, coupant et dur comme un métal, mon ange comme tu fais mal. Sa porte un jour. pour respirer.
Il était tout naturel pour moi de vous reparler de Françoise Hardy dans L'or des curieux chez le libraire, puisqu'un bon génie est parvenu à la convaincre que l'édition puis la diffusion de l'intégralité de ses textes pouvait être d'un intérêt et d'une valeur suffisante pour qu'elle y consente. Grâce soit rendue à ce saint homme. On se dit que certains coffres-forts ont dû être plus simples à percer. On sait Françoise Hardy forte d'esprit, déterminée s'il le faut, et elle était absolument persuadée que la toute première période de sa vie de chanteuse était inconsistante, dénuée de tout intérêt. Ce qui prouve au passage sa totale implication dans ce qu'elle produit. Elle est perpétuellement dans l'élan, dans la seconde même et à la pointe de ses exigences, au plus aigu. Et c'est dans ce perpétuel feu de l'exigence qu'elle juge tout de son œuvre. Elle est sans pardon avec elle-même. Il fallait donc un œil et un avis extérieur et faire en sorte qu'elle daigne l'écouter. Et celui-là, peut-être, saurait-il lui rappeler que la vie est un tout, une suite de moments, de saisons, d'instantanés de nos heures, et que la raison d'être de tout cela est de témoigner de nous. Et c'est ce que ce livre fait parfaitement. Je crois bien que c'est la toute première fois que Françoise Hardy autorise une publication de ses seuls textes et que nous tenons là un document des plus particuliers, puisque souvent nous aurons déjà croisé l'œuvre sous une autre forme et qu'elle nous revient dépouillée, sans masque, sans ses habits de musique, et que très souvent, telle qu'elle, ses textes sont une véritable surprise. C'est très inattendu. Nous pensions nous trouver face au carnet secret d'une jeune fille et au détour d'un verre en déboulent deux autres qui sont comme des crochets au menton. Françoise Hardy a un talent fou, voire du génie, pour la cassure, la rupture de ton à la seconde, le retournement complet. Dans sa façon d'exposer un sentiment, une pensée soudaine, un aparté, ce qu'on appelle une note de l'auteur, NDA. Parlant par exemple de l'amour d'une jeune femme, elle en reviendra à son enfance, à sa façon alors d'envisager l'idéal du sentiment et du rapport avec autrui. On croyait se trouver devant une Morna adolescente, on est en fait devant l'engagement de toute une vie et devant un type d'exigence bien plus haut que ne le disent généralement les chansons. L'aplat de l'écrit éclaire énormément sur les soubassements de son écriture, sur son motif profond. Et ici, Françoise Hardy ne cède rien au poète quant à l'intensité, au feu pur. C'est une écriture extrêmement franche, exposée, offerte, pas l'écriture de quelqu'un qui poserait à la déesse. C'est au sens le plus fort une écriture de femme. Écoutons Françoise Hardy avec un extrait du CD qui est à ce jour son ultime enregistrement. Il est intitulé « Personne d'autre ». Je vous le recommande vivement. Françoise Hardy y est, y écrit et y chante à son meilleur. Ses textes y sont d'une maturité vibrante, flamboyante, et tout est à l'unisson. Les orchestrations, les musiciens, tout est parfait. Quelque chose dans son chant est plus relâché également. Elle est sans crispation aucune, comme si, du souffle aux mots, il y avait entente tacite, entente secrète. C'est un chant du bout des lèvres, d'autant de liberté que de maîtrise. Ici gouverne la musique du mot, qu'elle enveloppe d'une voix moirée, que couronne un ray de cuivre nouveau. C'est au couchant de l'existence qu'une voix livre sa vérité. La voix de Françoise Hardy garde bien des traits de sa jeunesse, jeunesse dont elle fut l'un des plus beaux médaillons. Le temps y a rajouté de la profondeur, de la présence. Et telle qu'en elle-même, elle vient à nous plus relâchée, plus libre encore que jamais. Françoise Hardy.
Dans la brume, les lignes s'effacent avec nos traces. Dans la nuit sans lune, les tons se fondent avec nos ombres. Tout s'évapore, un seul rêve me hante encore. Un fantasme sur toi qui te cache, toi qui te tais. As-tu vraiment existé? Disparu la crainte des comptes à rendre au goût de cendre. Trop loin face à face, j'entends des voix. Se peut-il que ce soit toi? Montre ton visage.
Réflexe d'automate et mauvaise foi.
toi. Cache-cache, même joue contre joue, ça va de soi. À la masse, fatigué surtout de ces jeux-là.
De la matière écrite de Françoise Hardy, il est délicat, sinon de juger, ce que je me refuse à faire de toute façon, du moins d'en tirer somme globale et donc sentiment global. Et cela tient à l'empreinte même de la chanson, à ce qu'elle est. Les chansons sont avant tout des instantanés, des séquences de vie éparses, des fragments superposés. Ainsi, les écrits de Françoise Hardy sont des éclats multiples, nés d'une même cassure, éclats qui vont parfois se cacher, rouler dans les recoins, quand d'autres resteront à briller devant vous. Et cet éclatement de l'écrit le rend doublement effectif, puissant. Je parle ici de cette puissance d'esprit qui donne par exemple à l'auteur du haïku la précision, l'indétrônable justesse de son mot, de sa vision. Les auteurs de chansons écrivent bien plus qu'on ne le pense, et leur écriture est d'une science bien plus grande qu'on ne leur accorde généralement. Ce qu'il faut donc considérer ici, c'est la singularité même de la chanson, qui n'est pas objet littéraire en totalité, pas davantage qu'elle ne sera exclusivement musicale. La chanson est d'abord et avant tout une position particulière, un état de fait, la réalité d'une présence égale texte-musique dans une sensibilité donnée. Texte et musique devenant deux réalités entre lesquelles primera la notion d'équilibre. Celles et ceux qui œuvrent dans la chanson possèdent donc à l'état natif ces deux dispositions en une seule. Texte-musique, les deux se pliant l'une à l'autre et se présentant ensemble à la conscience. Qui irait nier que Charles Trenet ou Georges Brassens possédaient tout ensemble l'art de rimer et celui de concevoir des mélodies, cela dans un seul et même élan. Ça n'est donc pas avec ces textes que Françoise Hardy nous présente ici d'un tout littéraire qu'il nous faut juger, mais de la moitié d'un tout, a priori indissociable. Juger donc de la moitié fournie par notre langue, et que l'on aura isolé de sa part immatérielle, la musique. Ce que nous lisons donc, c'est souvent une métrique imposée par la barre de mesure, des sonorités de mots, des tournures imposées par le caractère d'une harmonie, par celui d'un accord, par un battement rythmique. En chanson, on ne va jamais directement du fond de son cœur à l'épreuve finale, sans avoir dû effacer, rayer, abandonner, modifier, changer du tout au tout mille choses. La chanson procède d'un langage sans cesse retouché, repris, retravaillé entièrement sous l'injonction de la musique. Il ne faut pas rechercher la poésie dans la chanson, tout simplement parce que ça n'est pas ce qu'elle est, même si symboliquement ce serait tentant de le faire. Ce recueil de textes de Françoise Hardy n'est donc pas, stricto sensu, un recueil de poésie, mais un recueil d'une forme ni hybride ni diminutive qui, je le crois, est une part essentielle de ce que nous nommons poésie, à savoir l'héritage du rondeau, de la ballade, de la chanson, ce que Charles d'Orléans appelait son livre de pensée. On est au cœur de cela avec Françoise Hardy. Le livre de pensée, voyons si je m'en rappelle. Dedans mon livre de pensée, j'ai trouvé, écrivant mon cœur, la vraie histoire de douleur, de larmes tout illuminées. C'est là sans doute le meilleur résumé qu'il soit de cet ouvrage de Françoise Hardy et peut-être de son œuvre entière, cette mélancolie dangereuse et attirante qui court de Christine de Pizan à Émilie Brontë. Elle est aussi en chaque vers de Françoise Hardy. Peut-être est-il le temps de voir cette autre dimension en elle, la femme de mots. Françoise Hardy est d'une plume, d'une précision clinique. Elle ne craint pas la dureté des sentiments. Elle est toute d'idéal, d'absolu, et la trivialité du réel l'atteint, la met à mal. Mais elle est sacrément dure au mal. Ses textes sont une longue et incessante exhortation à trouver en soi les forces, le courage d'aimer. Une très très grande force d'esprit se dégage de ses pages. Depuis l'innocence des premiers temps, qu'elle cherchait souvent à masquer par des bravades de style, jusqu'à la noirceur parfois crue, mais jamais outrée, de ses derniers textes. Françoise Hardy a toujours joué de ses propres caractères, joué de ses ombres comme de ses clartés, joué avec ce qu'elle ne pouvait pas faire et ce qu'elle était la seule à pouvoir faire. Tant musicalement que littérairement, s'il faut absolument user de ce mot, Françoise Hardy nous a emportés dans son voyage sans tricher avec elle-même et sans tenter de plaire à vil prix. Musicalement, elle a créé un univers nuancé, très contrasté, très riche, en laquelle elle est identifiable dès la première note, dès la première seconde, et tout autant son écriture nous renvoie toute sa personne, du moins tout ce qu'elle permettra que l'on en sache. Cela sans la moindre auto-indulgence. Elle est vraie, elle est elle-même. Je ne vois guère, même si rien ne permet de les comparer, guère qu'une Joni Mitchell qui ait pu maîtriser à ce point l'art si difficile de l'autoportrait, d'un autoportrait qui soit enrichissant et stimulant pour autre que soi-même, autoportrait réfléchissant, reflétant, résonnant, vivant donc, et pas seulement un miroir posé devant soi. On peut voir dans les écrits de Françoise Hardy une cassure nette presque, un point limite. Lorsqu'elle a 30 ans, elle devient une autre. Elle ne se cache plus derrière des tournures types de la chanson. Elle se montre et s'inclut très personnellement, intimement, offrant de belles singularités qu'elle présente sans retouche. Son mot devient plus offensif, plus libre, plus précis, donc beaucoup plus effectif. Elle ne tempère plus. Les déséquilibres sont avérés, la souffrance devient souffrance, idem pour le manque, le sentiment d'abandon, de mensonge, de duperie. Mais aussi, partout, elle dira qu'aimer est tout ce qui compte en vérité, qu'aimer peut être le seul problème, mais la seule issue également. Les chansons de Françoise Hardy, si elles montrent une route difficile, sinueuse et n'épargnant aucun tourment, montrent aussi l'intégrité remarquable de leur auteur. Françoise Hardy n'a jamais lâché l'affaire, elle n'a jamais lâché son thème, comme Christine de Pizan ou la comtesse de Die, comme Gaspara Stampa, comme Anna de Noailles, mais comme Billie Holiday aussi avant elle. La brûlure d'aimer, et c'est en cela que les textes de Françoise Hardy font l'unité. Tant la toute jeune fille, Françoise Hardy, que la femme, puis la dame, sont fidèles à l'amour et à ses souffrances. Les blessures dans ses chansons sont celles de sa vie. De par la langue qui est la sienne, usant largement de symboles et d'apartés, de moments où elle fait la somme de ce qu'elle vit et a vécu, elle s'expose à ne pas être épargnée par elle-même. Il y a dans ses chansons une confrontation entre elle vivant l'histoire qu'elle raconte et elle toujours, mais considérant les choses comme de l'extérieur, avec hauteur. Et c'est ici que le couperet s'abat. Elle n'est jamais condescendante et quelquefois vraiment pas tendre du tout avec elle-même. j'avoue être plus sensible à ce qui est la seconde partie de son œuvre, même si, à ce moment-là, le tout petit enfant que j'étais m'attrape par le bras et me secoue. Dis donc, t'aurais perdu la mémoire ? Eh oui, il ne faudrait pas que j'oublie le tout petit enfant qui adorait Françoise Hardy, quoi qu'elle ait pu chanter. Et je ne comprenais même pas à l'époque ce qu'elle chantait. Et quoi qu'il y ait eu, il faut s'en souvenir de superbes chansons depuis le début et même des chefs-d'œuvre. Le premier bonheur du jour, la maison où j'ai grandi, mon ami la rose, l'amitié, chef-d'œuvre. La somme de ces textes constitue telle quelle une sorte de mémoire sur l'art de grandir en public. De la toute jeune fille des débuts faisant des chansons encore selon des codes, à Dame Hardy libre de tout, de tout dire, de tout taire, de tout écrire, de tout envoyer balader, de tout penser, cela dans le plus grand mépris des conventions inutiles, il y a bel et bien continuité, un fil constant, ténu, à peine visible, mais bien présent. Peut-être aurez-vous, avec les tout premiers textes, l'impression de lire une toute jeune fille, effroyablement gauche, réservée, parvenant à peine à se figurer clairement les choses et tentant de donner le change par des conventions de style, des postures écrites, et peut-être à ce moment-là aurez-vous pensé juste. Mais ces textes sont entrecoupés d'impressions et de remarques de la Françoise Hardy d'aujourd'hui. Et cela concourt à rendre ce livre passionnant par les perspectives qu'elle ouvre par ses commentaires. Ce livre nous rappelle aussi que la chanson est un art qui s'acquiert et qui comporte en soi une part certaine d'artisanat. Mais c'est aussi un art qui ne connaît sa plénitude que lorsque l'artiste aura su et pu lui infuser toutes les complexités, les richesses de son être profond. Il faut comprendre dans quelle mesure la musique des chansons n'est pas seulement musique, ça n'est pas du classique, ça n'est pas du jazz ou tout ce qu'on veut d'autre, et en quoi l'écriture de chansons est toute différente de l'écriture dans l'exercice poétique ou romanesque. La chanson est une singularité, un équilibre, un point de rencontre, un croisement. Un grand littérateur fera souvent un médiocre auteur de chansons. J'en veux pour preuve les essais de chansons de Victor Hugo, où l'on voit le génie des orientales sombrer dans de la rime à deux sous et de la littérature de midinette. Jean-Paul Sartre échouera pareillement, mais Sartre était avant tout un prosateur, ce n'est pas son domaine. Je suppose qu'il a dû être difficile de dire non à la jeune Juliette Gréco. Alors oui, la chanson est un art, et des plus difficiles qui soient. Il faut en apprendre et en comprendre le principe. Un texte tout à fait médiocre pourra servir et finaliser une chanson sublime, et même lui être indispensable, tout autant qu'une musique extraordinaire, foisonnante, richissime de mille détails, pourra ruiner un texte magnifiquement écrit, en faisant fonctionner sous lui une mécanique tendant à l'égaler. Plus par plus égale moins, cela existe aussi en chanson, et dans cette mathématique-ci, que ce soit le plus par le moins ou le moins par le plus, tout pourrait nous conduire au moins. Tout cela parce que la chanson n'est pas une théorie, n'est pas un raisonnement, n'est pas une logique, mais une capacité spécifique de l'esprit à pouvoir se déjouer lui-même. Entre un texte et une mélodie, l'étincelle sera ou ne sera pas. Réalité brute, directe, immédiate, et à laquelle l'esprit, la logique, la science, le raisonnement ne pourront rien. Françoise Hardy, sans doute, est quelqu'un d'anachronique dans notre époque, époque qu'elle aura curieusement, sublimement personnifiée, tout en soulignant sans cesse la superficialité et en lui étant dissemblable autant qu'il est permis de l'être. J'ai une immense reconnaissance, gratitude, à direction des artistes qui ont su, un jour ou l'autre, m'émouvoir, ne serait-ce qu'une fois, m'éveiller les sens, me rendre plus aimant, plus disponible, plus riche, m'ouvrir à l'admiration, à la curiosité. La chanson, ça n'est pas pour les blasés, Ça n'est pas pour les tièdes, les mesurés en toutes choses. Dans quelle catégorie donc ranger les écrits de Françoise Hardy ? Ah, vous me la baillez belle, ma foi, je n'en sais trop rien. Les catégories et moi, franchement, ça fait deux. Il y a quelque chose d'intemporel dans le regard de Françoise Hardy et dans ses mots. Quelque chose qui, de manière très troublante, nous ramène d'abord vers des auteurs du passé, parfois du passé très lointain. Je vous parlais de Christine de Pizan, qui était l'auteur de « Le chemin de longue étude », où elle disait ces mots, je cite, « Ce malheur m'arriva, ce fut mon douloureux partage. On entendrait presque sourdre dans ces mots une douleur jumelle, comme un écho lointain de certains vers de Françoise Hardy, ou bien Caspar Astampa, que Rilke admirait tant et dont l'œuvre entière chante l'amour malheureuse. On dirait une sœur de Françoise Hardy, par son écriture dense, extrêmement condensée, conçue pour être la plus puissante en le moins de mots possible. On pourrait bien sûr citer Charles d'Orléans, dont je vous faisais mention, faisant le détail et la somme de ses peines, chantant son incapacité à saisir un amour pourtant près de lui, tout près, et tirant de lui cette épure magnifique que je vous cite. « Je meurs de soif auprès de la fontaine. » 5 siècles après lui, Françoise Hardy aura ces mots, je la cite. « Nous resterons au grand jamais loin l'un de l'autre et pourtant tellement près. » Peut-être sentirez-vous ici l'importance du rythme qui oblige le mot, le rend plus présent, l'éclaire plus encore par le contraste et le jeu des sonorités. Françoise Hardy encore. N'essayez pas de m'arracher la moindre bribe, du moindre secret, levrez le voile pour égâcher tout ce qui nous lie, de loin ou de près. Françoise Hardy a indubitablement une écriture relevant de l'art poétique, des formes antiques comme des formes contemporaines. Mais je ne puis en dire plus, il ne me revient pas d'affirmer quoi que ce soit, seulement de dire mon sentiment. La chanson induit un rapport direct et très proche, presque intime parfois. L'écriture n'y règne pas seule. Il y a la voix, ses nuances, il y a les instruments, la mélodie, les harmonies, sensibilité confluente, en appelant à l'être entier et plus seulement à l'intellect et au sensible. Et de cette forme sensitive entre tous, oui, je peux dire que Françoise Hardy est poétesse.
Un soir doux. comme un appel, un air intemporel. Personne d'autre que toi pour l'entendre. Tes yeux couleur de ciel, quelque chose d'irréel. Et moi qui reste là à t'attendre. En quel temps, en quel lieu, sur quelle planète ma mémoire se trouble un peu. Elle invente, me prend en traître pour des signes en creux. Autre vie, autre mot en pure perte. À quoi bon fermer les yeux? Comment perdre autant la tête pour un signe ou deux? Univers parallèle, faux contact étincelle. Et moi qui baisse les bras, désolé. Les coups mortels, les regrets éternels. Et toi, où que tu sois, exilé, autre temps, autre espace, autre conquête, ma mémoire se brouille un peu. Elle invente, me prend en traite. Des signes en creux. Autre époque, autre rêve, autre tempête. Même un cœur sorti du jeu risque de battre encore peut-être pour un signe ou deux.
Doit le prononcer, car c'est le nom de cette faille d'où est sorti le plissement qui a tout emporté. Le nom de l'épicentre d'un séisme dont on ne sait pas s'il ne dure pas encore. Le nom de la braise qui vole, de ce feu couvant toujours sous l'apparente paix des cendres. Il est là, toujours, même absent, comme au cinéma, quand il entrait dans le champ de la caméra par un angle mort et ne disait rien, ne faisait rien, ne cherchait même pas à produire quelque effet que ce soit. La présence, comme Jean Servais, comme Jean Topard, comme Pierre Blanchard, comme Charles Denner, présence qui donne vie à l'image, à l'histoire. Un nom, Jacques Dutronc, que j'eus la chance de voir et d'écouter en concert au temps de sa prime jeunesse, de sa première fleur, comme aurait dit le bon père Ronsard. Jacques Dutronc était venu dans ma ville, figurez-vous, sous le chapiteau géant qu'avait loué le comité des fêtes pour le soir de gala, que dis-je, d'apothéose de la quinzaine commerciale de la bonne ville de Saint-Marcellin, capitale fromagère de la Basse-Isère, un pied sur le Vercors et l'autre dans le couloir rhodanien. Que Dutronc soit et Dutronc fut, leçon de décontraction, leçon de culot, le son de charme absolu. Dutronc était en roue libre et son humour était monstre. Il était d'une aisance princière et d'une timidité de collégien. Et musicalement, ces jeunes gens ferraillaient tout à fait dignement, bottant même le train par endroits au King's de Ray Davies, voire au Spencer Davis Group de l'immense Stevie Winwood. Le bassiste, Adi Calafat, nous expédia même en pleine poire un solo de basse qui dura 10 bonnes minutes, la même note, tout du long, jouée de la même façon, tout ça en tirant une tronche à la Buster Keaton, Sourire, moi, vous plaisantez. De Jacques Dutronc, il peut être dit mille et mille et une choses et leur contraire. Tout dépend de l'éclairage que l'on portera sur lui, tout dépendra de la façon dont nous dirons les choses. La place publique n'est certainement pas l'endroit où peut se faire la lumière sur les êtres et sur les choses. Et si n'y parlaient que ceux qui ont la moindre idée de ce dont ils parlent, on n'y entendrait qu'un long et pénétrant silence. Silence dont Jacques Dutronc, lui, est virtuose, excepté lorsqu'il se souvient, Dieu merci, qu'il a une voix et qu'elle est magnifique. Alors, Jacques Dutronc et Françoise Hardy, ensemble, en majesté, puisque vous partez en voyage.
Bah, il la remercie hein, de l'avoir accompagnée à la gare.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Bah non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça.
C'est... Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois?
Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage.
Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage.
Et retourner dans notre cage pour mieux attendre mon retour.
Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger.
Bah, il espère que c'est l'enfumeur.
Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre.
Ah, et puis quoi encore? Oh là là.
Puisque vous partez en voyage,
vous m'avez promis, mon chéri,
de vous écrire 14 pages
tous les matins ou davantage, pour que je voie votre visage.
Baissez la vitre, je vous prie.
C'est affreux, je perds tout courage.
Et moi je déteste Paris.
Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien
que je dois rester, mais je jure que s'il crie encore une fois, moi je viens.
J'ai mon amour pour ce bagage. Et tout le reste, on s'en fout.
Puisque vous partez en voyage,
mon chéri, je pars avec vous.
Ainsi prend fin une saison que nous aurons, comme la précédente, descendue à cloche-pied. Saison à éclipse. Une saison qui m'aura vu, une fois de plus, jouer les étoiles filantes, sitôt parues, sitôt disparues, comme vous aussi, je pense. Alors je vous souhaite à tous et toutes le meilleur des étés, que vous y trouviez des forces nouvelles, et toutes choses à votre convenance. L'or des curieux revient à la rentrée, sous quelle forme, ma foi, je n'en sais trop rien. Le fin mot de tout cela est ton bon vouloir de notre programmatrice en chef. Alors, pouce en l'air, pouce en bas, la gloire ou bien les fauves, qui peut le dire? Je sais seulement que je serai là, et c'est déjà une grande chance. Me serait-il permis de vous recommander une joie prudente? Notre sort est et demeure fragile. Vous recommandez aussi le vaccin. Je m'y suis soumis moi-même, et deux fois plutôt qu'une. Et je continuerai de porter le masque lorsqu'il le faudra. Être libre, vivre et agir librement. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être borné, systématique, irascible, et dans certains cas, il faut le dire, bouché à l'émerie. Et lorsque la médecine nous enjoint d'être prudents et nous fait recommandation, sans doute gagnerions-nous à l'écouter, puis à l'entendre, et même à lui obéir. Vous savez, obéir, ça n'est pas déchoir, surtout lorsque c'est la vie qui est en question, et c'est un cancre professionnel qui vous dit cela. J'ai appris à l'école, où j'étais un cancre monstrueux, que l'obéissance, dans le pire des cas, ça n'est qu'un mauvais moment à passer, puisque vient toujours la sonnerie qui nous libérera tous. Et celle-là, je nous la souhaite pour bientôt. Alors, bonnes vacances à vous et mille merci d'écouter Radio Grand Ciel. À bientôt. Souvenir me tue.
les apparences, le silence n'est jamais immobile. Tout attend à un sens et confiance. Imagine les forces en présence. Avant que tu t'élances, que tu danses, que tu cours sur ton fil, que tes belles évidences, ta violence. Si nul n'échappe à ces orages qui balayent au passage les repères qui éteignent la lumière dans la nuit noire, tôt ou tard.
Tout est si incertain.